Bonsoir. Un jour, il y avait un jeune petit garçon qui était dans sa chambre en train de dormir. Il dormait. Et alors qu'il était en train de dormir, ça faisait quelques instants qu'il s'était peut-être endormi, il a entendu une voix. Il a entendu quelqu'un lui parler et lui dire « Samuel, Samuel ». Et alors il s'est levé, il comprenait pas qui l'appelait. Puis au bout d'un certain moment, avec une certaine circonstance, eh bien il a compris qui lui parlait. C'était Dieu. Un autre moment, il y avait un autre homme, un autre moment, une autre époque, qui était là et qui, alors qu'il était berger, qui gardait un troupeau, il était là, il a vu sur une montagne, pas très loin, il a vu un buisson qui brûlait, mais pourtant qui était en feu, mais qui ne brûlait pas, qui ne se consumait pas. Et il s'est approché, et il a entendu une voix lui aussi. Il a entendu quelqu'un lui parlait, qui lui disait « Moïse, Moïse !» Et c'était Dieu encore qui lui parlait. Une autre personne était là, il allait pour tuer, il allait pour jeter des personnes en prison, il allait pour frapper, pour enlever des parents à leurs enfants, pour faire des choses atroces, pour meurtrir et pour faire du mal à des innocents. Cet homme, sur ce chemin, alors qu'il y allait sur sa monture, s'est entendu dire « Saul, Saul !» Pourquoi me persécutes-tu ? Celui qui lui parlait, c'était Jésus-Christ. C'était Dieu le Fils. Une autre personne s'est retrouvée alors qu'il venait rencontrer quelqu'un dont il avait entendu parler et dire du bien. Il s'approche et il s'entend dire « Voici un homme en lequel il n'y a point de fraude. » Et lui dit, cet homme lui répond « Mais d'où me connais-tu ? » Et Jésus, qui était celui qui avait dit cette bonne parole sur cet homme, Jésus lui dit, avant que tu viennes, lorsque tu étais sous le figuier, déjà je t'avais vu, déjà je te connaissais. Il y a une certitude lorsque l'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit les Écritures, les Saintes Écritures, eh bien on remarque quelque chose, c'est que Dieu nous connaît. Il nous connaît chacun par notre nom. Dieu, lui, il nous connaît parfaitement. Il sait ce qu'on pense, chacune de nos pensées, il les connaît. Il sait ce qu'on a fait avant de rentrer dans ce lieu. Il sait, il connaît tout le parcours de cette journée. Il sait même ce qui va se passer tout à l'heure, lorsque vous allez sortir. Il sait même ce qui va se passer dans votre cœur et ce que vous allez faire ce soir, de ce que vous allez entendre. Il sait tout. Lui, il nous connaît, il vous connaît. Mais j'aimerais vous poser une question qui brûle dans mon cœur ce soir et qui est importante. C'est, et vous, le connaissez-vous ? Connaissez-vous Dieu ? Ce Dieu qui a fait tant de choses, dont la parole de Dieu parle, dont cette Bible, ce livre saint nous parle. Le connaissez-vous ? Connaissez-vous Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui a fait des choses merveilleuses pour vous personnellement ? Le connaissez-vous ? Et pourquoi est-ce important à mes yeux que vous le connaissiez ? Eh bien, puisque dans ce livre saint, ce livre qui ne se trompe jamais, ce livre qui ne ment pas, ce livre qui dit que des vérités, il est dit, entre autres, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, cette vie d'une qualité incroyable, d'une qualité parfaite, cette vie qui peut commencer dès aujourd'hui et qui peut durer pour l'éternité, cette vie qui est nommée la vie éternelle, qui va nous conduire dans le paradis, dans cette présence dont on a parlé dans ce chant. Cette vie, la vie éternelle, elle est accessible, elle est donnée à ceux qui connaissent Dieu le Père et qui connaissent Dieu le Fils, à ceux qui le connaissent. Oui, il vous connaît, mais vous, le connaissez-vous ? Un jour, et la parole de Dieu nous a laissé ce récit, un homme a dit ceci, « Je ne connais pas l'Éternel. » C'était dans Exode, au chapitre 5 et au verset 2. C'est Pharaon qui dit ceci. Pharaon répondit à Moïse et à Aaron. On va lire à partir du chapitre 5, le verset 1. Exode 5.1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Cet homme dit et confesse de sa propre bouche quelque chose d'important. Il dit, « Je ne connais point l'Éternel. Il ne connaît pas Dieu. Et lorsqu'on regarde la vie de cet homme, non seulement là, oui, là, à ce moment-là, il pouvait se permettre de parler un peu, il s'est pris une certaine liberté, bien que, mais en fait, il était roi. C'était quand même un roi. Il pouvait parler, il avait une certaine autorité, et il dit, je ne connais point l'Éternel. Qui est-il pour que je lui obéisse? Quand on regarde la suite de sa vie, on ne veut surtout pas lui ressembler. On ne veut surtout pas vivre ce qu'il a vécu. Parce qu'il a fermé ses oreilles à la voix de Dieu, parce qu'il a fermé ses oreilles au conseil de Dieu, au commandement de Dieu, puisqu'il a refusé, même après, puisque Dieu a voulu à manifester sa gloire, Dieu s'est manifesté, il a montré qu'il existait, il en a eu la preuve avec les 10 miracles, les 10 plaies qu'il y a eu. Il a eu la preuve, Pharaon, que Dieu était puissant, qu'il était fort, qu'il existait. Il aurait pu dire, finalement, je devrais peut-être chercher à le connaître. Mais il a refusé. Et il nous est dit que son cœur a été endurci. Il a persévéré, a refusé à connaître l'Éternel. Et à la fin, lui-même, il a été perdu. Mais en plus, il a perdu tout un peuple avec lui et à sa suite. Je ne veux pas du tout lui ressembler. Et je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui, je connais l'Éternel. Connaître imparfaitement, peut-être. Mais j'ai commencé, je veux, je souhaite et je cherche et je vais tout faire pour connaître de plus en plus l'Éternel. Qui veut aller au paradis? Il y a des candidats pour le paradis? Il y en a, ils ne lèvent pas la main, je suis surpris. Vous me faites peur. Non, je sais que vous savez que vous y allez, vous êtes en paix. Peut-être quelqu'un ne sait pas s'il va au paradis. Qui veut aller au paradis? Tout le monde veut aller au paradis. Moi le premier, je veux aller au paradis. Une autre question, qui veut vivre heureux et en paix? J'aimerais vous dire, alors il faut connaître Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils. Il faut le connaître. Et alors comment connaître Dieu? Comment connaître celui qui peut me donner le paradis, qui peut me donner cette vie éternelle? On va faire une lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 2. Proverbes 2 et verset 1. Il est dit ceci, mon fils... Si tu reçois, ma fille aussi, pardon, je pense que c'est, les dames, vous n'êtes pas mises à l'écart. Mais là, il était parlé à un fils. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors... Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Amen. On va examiner un peu ce que nous dit ce texte. Mon fils, si tu reçois mes paroles, voilà la première chose à faire. Comment connaître Dieu? En recevant les paroles de Dieu, qui veut être un père pour chacun d'entre nous. En recevant ce que dit la Bible. Et j'aimerais m'attarder sur ce mot qu'est recevoir. Recevoir, vraiment, dans le sens qu'on peut en tirer là, c'est à la fois entendre. Premièrement, ça commence par entendre ces paroles, ou bien les lire, les entendre. Croire ces paroles qui sont dites, et les accepter pour nous, personnellement. Parce qu'on peut entendre et s'arrêter là. J'entends des bonnes paroles. Je lis des bonnes paroles. On peut aussi entendre et croire. C'est vrai ce qui est dit. C'est bien ce qui est dit ce soir. Je crois que c'est la vérité. Mais si on s'arrête là, eh bien on va manquer quelque chose. Et il faut aller plus loin. Il faut accepter pour nous, pour notre vie, ces paroles-là, ces préceptes, les paroles de Dieu. Il faut les accepter. Et en même temps qu'accepter, il faut les appliquer dans notre vie. Et alors, on peut dire que ça, c'est avoir la foi. La vraie foi, c'est celle qui entend des choses, c'est celle qui croit ce qu'il entend et celle qui les accepte pour soi. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la foi qui a une valeur. Il faut deux vertus pour connaître Dieu et pour avoir la vie éternelle. La première, c'est la foi. Croire, recevoir les préceptes. Avoir foi dans les paroles de Dieu. Et j'aimerais vous laisser un petit témoignage. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, un reportage où il était parlé d'héritage. un grand, grand héritage, une fortune. Quelqu'un était décédé, il n'avait pas de proches, pas d'enfants, pas de sœurs, de frères. Alors, vous savez, on a cherché dans... Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ils cherchent dans la généalogie, et puis ils vont trouver, là, etc., ils vont trouver le plus proche parent. Et puis, ils ont trouvé une famille à cette personne qui était partie et qui avait laissé une grande fortune. Et alors qu'ils ont trouvé cette famille, ils sont allés auprès d'eux. Seulement, il y a une consigne. Ne pas dévoiler le contenu de l'héritage. C'est une loi. Et alors, ils n'avaient pas droit de savoir ce qu'il y avait dedans. Tout ce qu'il y avait dedans. La seule chose qu'ils pouvaient deviner, c'est que s'il y avait tant d'efforts faits pour trouver quelqu'un, c'est qu'il y avait quand même quelque chose, une grande fortune derrière. Et puis alors, il y avait plusieurs membres dans la famille. Et il y en avait qui ont dit, qui, lorsqu'ils ont été convoqués, ils sont allés chez, je sais plus si c'est un notaire, comment on les appelle, et ils sont allés, et alors ils étaient là, il y en avait tout emballé, etc. Et il y en avait un qui était là, qui disait, où je me méfie. Parce que des fois, ils cherchent parce qu'il y a des dettes derrière. Et il s'est méfié. Il a dit, attends, moi je ne vais pas me laisser avoir, je vais réfléchir. Et il a cherché, alors ils avaient une semaine ou un délai pour répondre, et ils ont pris ce délai, ok, il y en avait, ils étaient tout contents, waouh, une fortune sûrement, etc. Et le notaire et le journaliste étaient restés neutres, ça faisait partie du contrat que le journaliste avait fait, il savait lui aussi, mais il restait neutre. Et la semaine se passe et on revoit les gens après et on voit ces personnes, alors il y en a tout emballé, les mêmes, oui nous c'est bon, on accepte, on signe, etc. Et il y avait le même, toujours douteux, toujours réticent, et qui était là, est-ce que c'est de la sagesse, est-ce que, je sais pas, bah, après tout c'est vrai que c'est quand même un danger, une signature, on réalise pas, mais des fois, ça engage une signature. Et... Il est là, il a cherché, il racontait que toute la semaine, il a cherché à rencontrer des personnes qui connaissaient le défunt, c'est la personne qui était partie, tout ça. Il avait rien réussi à trouver, aucune certitude dans son cœur. Alors il était là, il se demandait est-ce qu'il fallait accepter ou pas. Et je sais plus s'il avait accepté. Je crois que cette partie-là avait été coupée. Mais ça me fait penser un peu à ce que nous vivons, nous qui entendons la parole de Dieu. Ouais! Super, on veut savoir, oh mince, y a pas, mais c'est bien, je vais vous tenir en haleine. Tant pis. À la fin de la prédication, je vais inventer une fin. Non, je la connais pas, désolé. Je veux pas vous dire de bêtises. Et c'est un peu notre situation. On est là, ce soir, quelque chose vous est proposé, et je vous assure que c'est un sacré héritage. Le pardon de vos péchés, la vie éternelle, une vie remplie de bonheur, une vie remplie de joie, de paix, qu'importe les circonstances, celui qui a fait chanter ne s'est pas arrangé avec moi. Lucas, est-ce qu'on s'est vu avant? Non, on s'est pas arrangé. Mais simplement, on a des mots qui concordent, des paroles qui vont ensemble, parce qu'on a le même Seigneur. On a la même parole, et on vit la même chose. C'est pour ça qu'on peut dire la même chose. C'est pas une entourloupe qui est bien préparée. Rien à voir. C'est des choses que l'on vit personnellement et qui à la fois nous réjouissent et qui nous attristent parce que quand on voit ceux qui n'ont pas ce bonheur, cette paix, c'est quelque chose de paradoxal. Une joie qui demeure et une tristesse, un fardeau qui est là sur notre cœur, mais qui n'entame en rien notre joie. Et on est là et j'aimerais vous dire ce soir, vous avez un héritage qui est devant vous. La chose que vous devez faire, vous, après avoir entendu cette chose, après avoir cru peut-être ces paroles, cette bonne nouvelle, et après tout ça, il faut l'accepter. C'est bien d'entendre, c'est bien de croire, de savoir que c'est la vérité. Il y en a un qui sait les mêmes choses. Il s'appelle le diable. Il s'appelle l'ennemi, notre ennemi. Parce que lui, personne ne l'a tenté avant qu'il pêche. De son propre chef, il a choisi de prendre la place de Dieu. Il a voulu se mettre à la place de Dieu. Il a laissé l'orgueil prendre le dessus sur lui. Personne ne l'a tenté. Que l'être humain, pourquoi il a le choix? Peut-être parce que lui, il a été tenté. Peut-être pour ça. Mais lui, il a choisi. Et lui, il est tellement enragé de ne pas avoir cette vie éternelle. Il sait que c'est quelque chose de bien, qu'il est... Finalement, il doit réfléchir. Il doit se dire, mais j'étais bien après tout. J'ai fait une erreur de pas accepter de me soumettre à Dieu, d'obéir et d'être resté proche à Dieu, de rester près de lui, proche de Dieu. Et alors, il est là, il cherche à nous perdre. Et c'est lui qui cherche à vous mettre le doute. et à vous dire, mais non, s'il faut, il y a une entourloupe derrière. Tu crois, on te dit que c'est bien, qu'il y a un héritage. Nous, on vous dit la vérité. Mais et lui, il vous dit, non, attends. C'est que des bêtises. L'amour vrai, ça n'existe pas. Trop de déceptions dans ta vie. Trop de déceptions. La joie qui demeure, attendez, ça n'existe pas. Si ça existait, ça se saurait. Mais justement, c'est ça le paradoxe. C'est qu'on le dit, on le crie, qu'on l'a trouvé, personne ne nous croit. En tout cas, pas grand monde. On aimerait que tout le monde nous croit. L'amour, la joie, une paix qui demeure, toutes ces choses. Ah oui, puissiez-vous l'accepter. L'accepter, aller plus loin. Non seulement l'entendre, le croire, oui, c'est vrai. Mais l'accepter et puis signer, vous engager. Faire ces paroles vôtres. Quand Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, eh bien choisir de ne pas s'inquiéter. Parce que vous savez que puisque vous avez donné votre vie au Seigneur, rien ne peut vous arriver sans qu'il le contrôle, sans qu'il règne. La foi, j'aimerais en venir à cette deuxième vertu, la foi ne peut nous faire connaître Dieu que si elle est motivée par une autre vertu qui est l'amour. Si je crois, si j'ai la foi, j'accepte, je fais tout ce qu'on me dit, mais sans aimer, sans amour, ça s'appelle la religion. Je fais des choses pour mériter, parce qu'il y a un intérêt derrière, pour mériter. Je veux bien du salut, je veux bien le pardon de mes péchés, je veux bien tout ça, mais après moi, accepter, faire mienne ces paroles, y obéir, ça ne me va pas. Moi, je veux juste les bénédictions, comme il était rappelé cet après-midi, mais entretenir une relation, obéir, marcher nouvellement d'une autre manière, abandonner toutes ces choses qui me passionnent et qui prennent tout mon temps, venir à l'église tous les dimanches, moi, ça m'intéresse pas. Non, moi je veux bien le pardon, mais le reste, je ne veux pas, je m'engage pas, moi je veux pas m'engager. Eh bien, il va vous manquer encore quelque chose. C'est vrai, c'est ça la différence entre le diable. Il croit, mais il n'aime pas. Il n'aime pas. Dans le diable, il n'y a pas d'amour, alors qu'en Dieu, il y a de l'amour vrai. 1 Corinthiens 13, au verset 13, il le dit, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais qu'est-ce que c'est la plus grande des choses ? L'amour. Qu'est-ce qui va donner de la valeur à ma foi ? Qu'est-ce qui va donner de la valeur au fait que je crois ? Eh bien, ce que j'aime, j'ai de l'amour. Et comment aimer ? Comment aimer Dieu ? Puisque l'amour doit être d'abord envers Dieu, je dois aimer Dieu. Eh bien d'abord, je dois comprendre que Dieu m'a aimé le premier. Dieu m'a aimé le premier. 1 Jean 3,16 dit ceci, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Comment pourrais-je aimer à sa juste valeur Dieu ? Comment pourrais-je aimer Jésus-Christ ? Eh bien en comprenant et en regardant à ce qu'il a fait pour nous. Jésus a donné sa vie. Oui, il est dit tout à l'heure, et je l'ai dit, qu'on peut être pardonné de nos péchés. Mais ça a coûté un grand prix. Ce grand prix, c'est Jésus-Christ qui l'a payé sur le bois de la croix. Il a donné sa vie. Oui, Jésus-Christ, c'était Dieu le Fils, il était dans le ciel, dans toute sa gloire, il était bien, il était Dieu. Mais il a choisi de venir sur la terre et d'accomplir ce que personne d'autre ne pouvait faire. C'est de mourir, lui qui était parfait, lui qui n'a jamais péché. De mourir et de donner sa vie sur la croix. D'abord d'accomplir une vie parfaite, de ne jamais pécher et de donner sa vie à la croix. C'est là que je vais être touché. C'est là que je vais comprendre de quel amour j'ai été aimé et que je vais arriver à aimer en retour. On relit le texte dans Proverbe. Proverbe au chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous avez vu, j'ai insisté sur certains mots. Garder, avoir une oreille attentive. Un cœur qui s'incline, si tu appelles, élever la voix, chercher, poursuivre, alors on comprendra, alors on aura la connaissance de Dieu. Et si j'ai relevé ces mots, c'est parce que ces mots me font penser à quelqu'un qui est fou amoureux. Fou amoureux. Et je vais vous expliquer, vous. Je vois les têtes. Fou amoureux, quelqu'un qui est fou amoureux. Quand il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes, littéralement il est parlé de cacher. d'intimité. Et l'intimité, on l'a avec les personnes que l'on aime, avec notre meilleur ami. Les meilleurs amis, c'est ceux qu'on peut dire nos plus grands secrets, qui ne les dévoileront jamais. C'est ceux à qui on peut dévoiler nos souffrances, qui sauront nous comprendre. C'est ceux avec qui on pourra partager nos grandes joies, qui ne seront pas jaloux. C'est ça, la vraie intimité, c'est ça, l'amour vrai. L'intimité qui est réservée au couple. Aussi, si tu gardes, si tu caches, si tu entretiens une intimité. Rendre une oreille attentive. Quand vous étiez fiancés, mesdames, messieurs, est-ce que vous aviez pas une oreille attentive à celle pour laquelle votre cœur penchait? Ou celui pour lequel votre cœur penchait? Tout ce qu'il dit, tout ce qu'elle dit, on est là, on boit les paroles. C'est pas vrai? On a une oreille attentive quand celui qu'on aime ou celle qu'on aime nous parle ou nous dit quelque chose. Avoir un cœur incliné, on a le cœur qui fond devant celui ou celle qui nous aime ou que l'on aime. On appelle, tu appelles. Oui, si tu appelles, combien de temps on pense au portable avec celui ou celle que l'on aime? On l'appelle sans cesse. Le texto, tout ça, nous, la nouvelle génération, entre guillemets, on connaît ça, hein. Et encore que, même, ça y est, les papiers et les mamies, ils s'y mettent. Et ils connaissent parfois mieux que nous. Moi, j'ai mon beau-père, qui est à la retraite et largement. Il est là. Il connaît l'ordinateur parfaitement. Il connaît tout mieux que moi. Il a fait un site internet. Son portable, il sait tout faire. Ça y est. Mais c'est une nouvelle ère, mais c'est ça. On s'appelle tout le temps. Nous, qui nous aimons. Moi, je me souviens avec Stéphanie, on s'appelait tout le temps. Fiancé. Alors, ça va? Oui, avant d'aller au boulot. Dès qu'on finissait. Alors, ça va? Tout va toujours bien? Oui, ok. Et puis, avant de retourner au boulot. Oui, ça va? Etc. Et c'était ça. Mais bon, c'est peut-être pas trop bon, hein. Alex, c'est un faut un équilibre en tout. Mais vous comprenez. On s'appelle. On cherche. On poursuit. Je me souviens quand Stéphanie rentrait dans l'église, moi j'y étais un peu avant, des fois c'était l'inverse. Mais quand j'y étais, je la cherchais du regard. Ou quand je rentrais, je vérifiais si elle était pas là avant moi. J'étais là, je la cherchais du regard. Ou alors, quand je l'avais trouvée, je poursuivais son regard, comme ça, jusqu'à ce qu'elle tourne sa tête vers moi. On poursuit, on cherche. Ça, ces paroles, ça me fait penser à quelqu'un qui est fou amoureux, quelqu'un qui est passionné. Passionnés, puissions-nous être passionnés par la parole de Dieu, celle qui nous fait connaître Dieu. C'est elle le moyen premier que Dieu utilise pour se faire connaître. Et Jésus, il est appelé la parole faite chair qui est venue sur la terre pour révéler le Père et lui-même se faire connaître. Oh oui, puissions-nous être fous amoureux, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais passionnés pour la parole. Pour la parole de Dieu, pour le Seigneur Jésus, pour notre Dieu. Oui, on aime plus facilement ceux qu'on admire, c'est pas vrai? Ceux qu'on admire, les personnes qui sont des exemples, ceux qui, waouh, j'aimerais leur ressembler. Ceux-là, on les aime plus particulièrement. Il y a quelqu'un, un pasteur particulièrement, qui m'a aidé un moment, et vraiment, je l'ai admiré, parce qu'il n'a pas été à juger, tout ça, etc. Il aide, il a été vraiment un frère, il s'est montré un frère, etc. Et voilà, j'ai admiré, et en même temps, il y a une affection qui s'est créée. Une affection, c'est normal, ça va de pair. J'ai une bonne nouvelle, Jésus est appelé admirable. Amen. Lui, on peut l'admirer, pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie, on l'a chanté, hein. Il a été cloué, il a souffert. Oh, des pleurs sûrement ont dû couler, des larmes ont dû couler de ses yeux. Il a subi tout ça pour nous, pour toi, pour moi. Oui, Jésus a été un passionné pour les âmes, un passionné pour toi, mon ami, ce soir. Dans Psaume 69, au verset 9 à 10, il est dit ceci, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. » Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Vous savez qui c'est qui disait ça? David. Psaume 69, c'est David. Oui, c'est marqué de David. C'est pour ça que je sais que c'est David. David, c'était un homme passionné devant Goliath. Comment ça? Il insulte l'armée de l'Éternel? Il insulte Dieu? Mais il s'est senti concerné. Quand Goliath insultait l'Éternel, quand il insultait le peuple de l'Éternel, il s'est senti concerné. Et lui, le petit enfant, qui n'a pas pu mettre l'armure du roi. Il a dit, non, moi j'y vais, comme le bon berger, je vais avec ma fronde. Et il y est allé, il a terrassé ce géant. Quel géant as-tu dans ta vie qui t'empêche de t'approcher du Seigneur? Oui, le Seigneur Jésus, par sa force, par son soutien, peut t'aider à faire tomber ce géant. Oui, David était passionné pour le Seigneur, passionné pour lui. Et il dit, le zèle de ta maison me dévore. Venir à l'église, c'était un cadeau pour lui, c'était un bienfait, c'était un plaisir que d'être dans la présence de Dieu, comme on l'a chanté. Et il a écrit des chants et des chants, des dizaines et sûrement beaucoup qui ne sont pas rapportés dans la parole de Dieu. Il a écrit ces choses et il disait qu'il aimait le Seigneur. Il lui criait son amour. Il avait une passion pour le Seigneur. Dans Jean 2,17, ces paroles « Le zèle de ta maison me dévore » sont reprises pour quelqu'un d'autre. Vous savez qui ? Jésus-Christ. Jésus qui rentre dans le temple et il voit que à l'entrée du temple, il y a des vendeurs. Dans Jean 2,17, il voit qu'on a fait de sa maison, de la maison de Dieu, une caverne de voleurs. Alors il prend tout, il renverse tout, et il est indigné, il dit, mais comment ça se fait que vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, alors que ça doit être appelé une maison de prière, une maison où on vient chercher du secours, et vous en faites une caverne de voleurs. Moi je vous dis encore aujourd'hui, Jésus, il doit être indigné, il doit être triste, il doit y avoir un cri dans son cœur quand il voit tous les lieux, tous les bâtiments où il y a marqué Jésus, où il y a marqué Église, ou alors où il y a une croix de dressée dessus, et où à l'intérieur, les gens ne comprennent pas que c'est le salut des âmes qu'il faut chercher, qu'il faut prêcher. C'est sa mort à la croix qu'il faut prêcher, que ce n'est pas un business, l'Église. Ici, on n'est pas là pour profiter de vous. Il n'y a pas d'entreprise ici. Personne n'est payé au quota du nombre qui rentre, qui sort. Personne n'est là pour faire un business ou faire de l'argent, ni même chercher un intérêt. On est juste là pour proposer ce secours qui nous a été donné. On n'a pas besoin de vous pour être heureux, on a tout trouvé en Jésus-Christ. Mais tellement c'est bon et tellement il y en a en abondance qu'on veut que vous puissiez en bénéficier aussi. Et tout ça, c'est gratuit. Et le Seigneur, quand il voit tous ces lieux religieux, où on pousse les gens à faire des choses pour mériter quelque chose, il doit être encore triste. Et s'il était sur la terre, sûrement qu'il ferait peut-être encore du ménage. Et dirait, mais vous avez pas compris. Vous avez pas compris. Ce n'est pas ça ma maison. Ma maison, ça doit être appelé une maison de prière. Un refuge pour celui qui a besoin de secours. Et vous allez me dire, mais vous parlez que de Jésus. Vous parlez toujours de lui et puis vous en revenez toujours à lui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me venir au secours? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que mes bonnes actions ne peuvent pas mériter? La Bible est claire. Elle dit que c'est le seul nom, Jésus-Christ. Jésus est le seul nom qui puisse nous donner la vie éternelle. C'est le seul nom qu'on puisse invoquer pour trouver du secours auprès de Dieu, puisque c'est la seule